question de défense. Guillaume Lagan, invité de France Info. Il est 6h. La région parisienne et le massif central étaient toujours cette nuit en vigilance orange de Météo France pour la neige et le verglas. La neige au rendez-vous avec des pluies parfois verglaçantes, donc prudence sur les routes encore ce matin. Comment donner aux enfants des emplois du temps qui conviennent mieux à leurs intérêts et à leur développement? La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant rend son rapport final aujourd'hui. Ils étaient 6000 hier à Marseille pour la marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi, assassiné le 13 novembre, et pour appeler à se mobiliser contre le narcotrafic. Le nouveau sommet sur l'Ukraine, c'est aujourd'hui en Suisse, avec des émissaires américains, ukrainiens et européens à l'ordre du jour. Le plan de paix de Donald Trump et le football, un revenant hier soir avec Monaco sur la pelouse de Rennes. Paul Pogba a retrouvé la compétition pour la première fois depuis plus de 2 ans. Le rugby, le 15 de France, finit l'année et sa tournée d'automne sur une bonne note. Une victoire 48-33 face à l'Australie au Stade de France. 6 départements du Massif central sont depuis cette nuit en vigilance orange de Météo France pour le verglas, avec des pluies verglaçantes qui pourraient rendre les sols très glissants. C'est en ce moment, donc, si vous circulez dans le Massif central, la plus grande prudence et de rigueur. Même chose sur une partie de l'est de la France. Pour l'Île-de-France, la vigilance est en cours jusqu'à 8h ce matin. Il a neigé cette nuit sur Paris et la région parisienne. Quelques centimètres de poudreuse neige qui ne devrait pas tenir au-delà de la mi-journée avec le net redoux qui est déjà annoncé. C'est la fin de 5 mois de travail collectif. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant se termine aujourd'hui. Les 130 citoyens tirés au sort votent sur leur rapport final qui sera ensuite remis au chef de l'État et au Premier ministre. Ils devaient répondre à une question: comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants pour qu'ils soient plus favorables à leurs apprentissages, à leur développement et à leur santé? Alors, quelles sont les propositions retenues? Noémie Bonin.
Alors, ces citoyens proposent de réorganiser la journée scolaire avec un début de cours retardé à partir de 9h seulement au collège et au lycée. Ils souhaitent aussi placer les enseignements théoriques le matin pour consacrer l'après-midi à des activités pratiques, sport, art, mais aussi ateliers de la vie courante, bricolage, cuisine, couture, ménage, plomberie, encore gestion financière et même préparation aux impôts. Les devoirs devraient pouvoir être faits beaucoup plus à l'école pour ne laisser que des petites révisions à la maison, défendent les participants à cette convention. Pour alléger les journées scolaires, ils imagine en contrepartie une semaine d'école à 5 jours, du lundi au vendredi. Et sur les vacances, sujet peut-être le plus sensible, ces citoyens ne veulent pas les réduire ou les modifier, mais juste passer de 3 zones à 2 pour alterner plus équitablement les semaines d'école et celles de congé. Ça permettrait aussi à toutes les régions d'avoir au moins une semaine en commun.
Noémie Bonin, la spécialiste éducation de France Info. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute la France hier et bravé le froid pour exprimer leur colère face à la persistance des violences contre les femmes et pour réclamer un plus grand effort public, notamment budgétaire, en appelant aussi l'État à révolutionner la lutte contre ce fléau. 50 000 manifestants à Paris, des dizaines de milliers en province. À Marseille, la marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi, ce jeune homme de 20 ans assassiné le 13 novembre par un commando à moto, a rassemblé plus de 6000 personnes. Hier, son grand frère Amine affirmant que plus on est nombreux, moins c'est possible de nous faire taire. Amine Kessassi, ce militant écologiste engagé contre le narcotrafic, il appelle à entrer en résistance sans céder à la peur. Tristan Barraud a rencontré hier dans le défilé des jeunes, inquiets de voir le climat qui se dégrade dans leur ville.
3 amis venus au rassemblement, Swan, Lison et Olympe, ont entre 14 et 15 ans. Ils habitent à Marseille, à côté du quartier où Mehdi Kessassi a été tué par un commando armé à l'âge de 20 ans.
Et c'est quand même très jeune. Pour la famille, pour tout le monde, c'est dur. Donc nous, on vient vraiment pour soutenir, pour montrer que ça peut arriver à tout le monde et qu'on veut juste que ça s'arrête.
Alors que la justice étudie la piste du crime d'intimidation visant le frère de la victime, un militant anti-narcotrafic connu, les 3 jeunes se sentent directement concernés par la problématique.
Autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la drogue et moi, ça me fait vraiment peur d'être dans le quartier et tout ça.
Dans la rue, il y a souvent ce stress où on se dit faut vite rentrer, on sait jamais.
La peur à certaines heures, dans certains quartiers, Lucie, la vingtaine, là aussi, cette Marseillaise regrette un manque de perspective positive dans la lutte contre le narcotrafic.
Il y a énormément de jeunes en effet à la dérive qui se font happer en fait par ce phénomène qui dépasse un peu tout le monde. Là où avant, dans l'imaginaire collectif, la mafia c'était un peu un dérèglement de compte, un genre d'entre-soi où ça touchait pas le public à plus grande échelle, et aujourd'hui ça fait des victimes vraiment collatérales.
D'autres personnes venues au rassemblement m'ont dit qu'il faudrait un débat national sur la question du narcotrafic.
Tristan Barrault à Marseille pour France Info. La France Insoumise lance officiellement aujourd'hui sa campagne pour les municipales de l'an prochain. Le parti de Jean-Luc Mélenchon ne dirige actuellement qu'une petite poignée de villes. L'an prochain, LFI aura des candidats dans un demi-millier de villes, dont 75% des communes de plus de 30 000 habitants, soit comme tête de liste, soit pour soutenir une autre liste, selon le coordinateur national du mouvement, Manuel Bompard. Plus de 80 députés de tous bords réclament l'interdiction du géant chinois du commerce en ligne Shein sur le territoire français. Texte publié dans la Tribune dimanche à l'initiative de la présidente Ensemble pour la République de la Commission du développement durable de l'Assemblée, Sandrine Lefeur. Interdiction demandée pour protéger les travailleurs, la santé publique et la planète après l'installation de la marque chinoise au BHV à Paris. Pour les signataires de ce texte, cette implantation dans un grand magasin parisien, c'est la forme la plus brutale de la fast fashion qui s'offre une respectabilité de façade. France Info, il est 6h06. Le plan Trump sur l'Ukraine au cœur d'une réunion à Genève. Aujourd'hui, les négociateurs américains, ukrainiens et européens se retrouvent en Suisse pour travailler sur ce plan américain largement aligné sur les exigences du Kremlin. Et le temps presse puisque Donald Trump a lancé un ultimatum aux Ukrainiens pour qu'ils acceptent son plan d'ici jeudi prochain, même si hier, il a mis un bémol en se disant toujours ouvert à la négociation. Les Européens, de leur côté, ont tenté de s'organiser en marge du G20 de Johannesburg et se sont donc greffés à cette réunion d'aujourd'hui à Genève pour plaider en faveur de l'Ukraine. Marie Mollet.
Une fois encore, les Européens n'étaient pas dans la boucle de ce plan élaboré en secret par Washington et qui reprend largement les exigences du Kremlin. Alors ce matin, les négociateurs européens vont tenter d'amender ce plan, réécrire ce qui peut l'être face aux négociateurs américains. Le secrétaire d'État Marco Rubio et Steve Witkoff, l'émissaire diplomatique de Donald Trump, très à l'écoute de Moscou. Alors pour aider au dialogue avant la réunion, les leaders européens ont pris toutes les précautions de langage pour ne pas froisser Donald Trump. C'est un bon accord, dans le sens où il propose la paix, a dit Emmanuel Macron, mais c'est une base de travail qui doit se reprendre. Des réserves, exprimées avec des mots sous-pesés et des euphémismes. Hier soir, Emmanuel Macron a évoqué d'un mot ce qui serait pour lui inacceptable, l'imitation de l'armée ukrainienne en particulier. Et puis, autre priorité des Européens à Genève, les points qui les concernent directement, notamment la question des avoirs russes gelés ou des soldats de l'OTAN. Là non plus, ils n'avaient pas été mis au courant.
Sandy Dauphin à Bellem pour France Info. Et à 6h07, le football, le PSG reprend à l'OM la tête de la Ligue 1 avec sa victoire à domicile 3-0 sur le Havre dans la 13e journée. Journée marquée par le grand retour avec Monaco de Paul Pogba, le champion du monde 2018, qui sort de 2 ans d'absence et une série de coups durs, dont la suspension pour dopage. Il n'est entré en jeu que quelques minutes hier en fin de match avec Monaco battu 4-1 sur la pelouse de Rennes. Mais malgré cette lourde défaite, il a enfin vécu à 32 ans ce moment tellement attendu.
J'avais déjà cette image en tête pendant des mois en fait. Tu vas jouer quoi, tu vas jouer. Et j'attendais ça avec impatience. Bien sûr, c'était pas le résultat qu'on attendait, mais le coach m'a donné cette chance-là de rentrer. Ça pouvait être quelqu'un d'autre aussi. La sensation, c'était bonne en fait. Je voulais essayer d'apporter une bonne énergie et prendre du plaisir, bien sûr, parce que là, ça fait longtemps quand même. Il y a du boulot encore pour revenir en pleine forme. Essayer de faire un match de 90 minutes et d'aider l'équipe. Parce que si je suis pas en forme et je joue mal et je performe pas bien à Monaco, l'équipe de France, il faut oublier. Donc franchement, aujourd'hui, je pense qu'à Monaco.
La suite aujourd'hui de cette 13e journée en Ligue 1 avec notamment Auxerre-Lyon à 15h, Nantes-Lorient à 17h15 et ce soir à 20h45, Lille-Paris-FC et le rugby. Le 15 de France finit l'année et la tournée d'automne sur une bonne note, une victoire 48-33 face à l'Australie au Stade de France. Match prolifique avec 12 essais, dont 7 pour les Bleus. Prochain rendez-vous pour le 15 de France, le tournoi destination le jeudi 5 février avec France-Irlande. Et tout de suite à 6h09, la première tendance météo de ce dimanche sur France Info. C'est avec Patricia Charbonnier. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Le verglas cette nuit, la neige et après la neige, la pluie.
C'est un changement de temps qui s'amorce par l'ouest du pays avec le retour de la pluie et un très net redout. Mais attention, après la neige de cette nuit, on a encore un risque de pluie verglaçante ce matin jusqu'en milieu de matinée entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Centre-Val-de-Loire et le Massif central. La pluie, elle va gagner du terrain vers l'est cet après-midi avec encore quelques flocons de neige possibles le long des frontières du nord de la neige sur les Alpes du Nord. Et partout ailleurs, donc un temps assez gris avec de la pluie cet après-midi entre les frontières du nord et le sud-ouest et des températures qui repartent à la hausse, qui seront quand même très contrastées. Cet après-midi, le froid résiste un petit peu dans l'est, 3 degrés à Strasbourg, 7 à Lille, mais on attend 9 à Paris, 11 à Marseille et 17 à Biarritz.
Patricia Charbonnier, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, juste avant 6h30 pour un nouveau point météo complet.
Ils bousculent les idées reçues, ils font bouger les lignes, ils se confient à Paul Larouturo. Découvrez pour info le nouveau podcast vidéo sur la chaîne YouTube de France Info.
Personnalités connues ou moins connues, ils viennent partager avec moi leur histoire, leurs convictions, leurs engagements.
Pour info, présenté par Paul Larouturo, le podcast vidéo qui met en lumière ceux qui racontent notre époque.
À retrouver sur la chaîne YouTube de France Info et sur l'application Radio France.
Qu'est-ce que l'Ukraine peut espérer de la réunion aujourd'hui en Suisse des émissaires ukrainiens, américains et européens pour discuter du plan de paix américain ? Réponse avec l'envoyé spécial de France Info à Johannesburg au sommet du G20 où il en a beaucoup été question hier. C'est dans un instant avant d'entendre l'analyse du spécialiste des questions de défense Guillaume Lagan.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
Il est 6h11, des émissaires américains, ukrainiens, européens se retrouvent donc aujourd'hui à Genève pour discuter de ce plan de paix de Donald Trump qui reprend en grande partie les exigences russes avec un ultimatum américain pour le président ukrainien, sommet d'accepter ce plan avant jeudi prochain. On est avec Frédéric Seyss, l'envoyé spécial de France Info au sommet du G20 à Johannesburg. Un ultimatum américain, Frédéric, qui est venu bousculer le sommet.
Au cours de cette première journée du G20 à Johannesburg, il devait être question de la croissance, du climat et de la dette des pays pauvres. Mais très vite, les réunions informelles se sont multipliées en marge du sommet. À la mi-journée, Emmanuel Macron s'est enfermé avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Réunion ensuite ouverte à d'autres pays européens, ainsi qu'au Canada et au Japon, tous membres de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Inquiets et sidérés par l'ultimatum américain, ils ont tenté de dégager une position commune. C'est une ligne de crête, explique un diplomate européen hors micro. D'un côté, la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. De l'autre, notre lien avec les États-Unis. Autrement dit, comment soutenir Kiev sans rompre avec Washington ? Les Européens ont choisi de ne pas braquer Donald Trump dans un communiqué. Ils estiment que le plan du président américain est une base de travail, je cite, mais ils rappellent aussi que les décisions qui concernent l'Europe ne peuvent pas être prises sans elle.
Les dirigeants européens envoient donc leurs conseillers diplomatiques négocier à Genève aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont vraiment encore une marge de manœuvre face à ce plan de paix américain ?
Alors hier soir, Donald Trump a montré un signe d'ouverture. Interrogé pour savoir si ce plan, c'était son dernier mot, le président américain a répondu non. Mais la philosophie de ce plan, elle, est assumée par l'exécutif américain. Le vice-président J.D. Vance estime qu'il s'agit de la seule proposition réaliste, sous-entendu proposition qui tient compte du terrain conquis par les Russes. Pour J.D. Vance, les détracteurs du plan Trump vivent, je cite, dans un monde fantasmé où la victoire de l'Ukraine est à portée de main. Un discours qui fait écho à la dernière rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. C'était il y a un mois. Le président ukrainien avait été fortement incité déjà à l'époque à céder des territoires à Moscou. Donald Trump, en difficulté sur la scène politique intérieure, espère obtenir cet accord de paix avant jeudi, jour de la fête de Thanksgiving aux États-Unis.
Frédéric Seyss à Johannesburg pour France Info. Il est 6h13. L'analyse maintenant de Guillaume Lagan, qui est maître de conférence à Sciences Po et spécialiste des questions de défense. Il estime que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être le principal objectif de ces négociations aujourd'hui en Suisse autour d'un plan américain trop favorable à la Russie.
L'Ukraine est un État souverain, donc elle peut toujours refuser le plan de Donald Trump. Mais le problème, c'est qu'il risque d'avoir des mesures de rétorsion de la part des États-Unis. Rappelez-vous, un peu plus tôt dans l'année, les Américains avaient coupé pendant quelques jours le renseignement qu'ils partagent avec l'Ukraine. Ils peuvent aussi décider d'interrompre les livraisons d'armes que nous finançons aujourd'hui, mais qui sont des armes américaines. Et ça rendrait la position de Kiev très difficile.
Et les Européens, est-ce qu'ils doivent être plus fermes ? Est-ce qu'ils sont trop frileux, comme le disent certains ?
Et les Européens, ils font la politique de leur capacité. Ce sont des pays qui sont divisés, qui sont pour la plupart dans la dépendance militaire envers les États-Unis, qui ne veulent pas rompre cette dépendance parce qu'elle est, rappelez-vous, la garantie de notre sécurité avec l'OTAN. Et donc, les Européens vont tenter d'infléchir la position américaine, mais ils n'ont pas aujourd'hui les capacités autonomes qui leur permettrait de se substituer à l'Amérique.
Mais quand Donald Trump dit ce plan de paix, Zelensky devra l'aimer, hein, ce sont les termes employés par le président américain. Au fond, est-ce que Volodymyr Zelensky a vraiment le choix, sauf celui de continuer la guerre en espérant que les Européens vont le soutenir jusqu'au bout et de manière massive ?
La stratégie de M. Zelensky, c'est de se dire que tant qu'il combat la Russie, il conserve un espoir de la vaincre, au moins sur le terrain ukrainien, de récupérer les territoires et d'obliger Moscou à arrêter son offensive. Bon, ça, c'était l'idée qu'il a eue depuis le départ. D'une certaine manière, ça a marché parce que la Russie, depuis 3 ans, elle n'est pas parvenue à conquérir l'intégralité de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, beaucoup d'observateurs se demandent combien de temps l'armée ukrainienne peut tenir face à une Russie qui perd beaucoup d'hommes et continue petit à petit de grignoter le territoire ukrainien. Donc cette situation est compliquée. Je pense que M. Zelensky, malgré tout, il doit aussi faire face à son opinion publique. Et on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui en Ukraine, il y a un vif désir de paix.
Et on sent que les menaces russes sont de plus en plus fortes. Hein. Vladimir Poutine a dit, si Kiev refuse, hein, 3 points, on sent que les menaces sont très fortes aujourd'hui.
Oui, on sent que les menaces sont très fortes. Après, dans cette guerre, vous le savez, il y a une forte dimension psychologique parce que le secret le mieux gardé de la guerre, ce sont les pertes des deux côtés. On ne sait pas exactement quelles elles sont. On sait que les Russes aujourd'hui avancent dans le Donbass, mais encore une fois, c'est une avancée très lente et apparemment, c'est une avancée qui est consentie avec beaucoup de sacrifices de leur côté. Donc au fond, peut-être que la position de la Russie n'est pas si solide que cela. Mais dans la tête de Donald Trump, c'est clair, c'est la Russie qui aujourd'hui l'emporte. L'Ukraine doit accepter une forme de reddition, de capitulation. Et c'est pour ça que ce plan est aujourd'hui plutôt négatif pour Kiev, même si je relève quand même, lorsqu'on lit les 28 points, qu'il y a quand même quelques aspects qui restent positifs. Par exemple, par rapport à l'objectif de la Russie qui était de dominer complètement l'Ukraine, l'Ukraine reste un État indépendant qui peut en plus rentrer dans l'Union européenne, qui conserve une armée qui est quand même substantielle. 600 000 hommes, c'est moins que ce qu'elle a aujourd'hui, mais c'est 3 fois les effectifs de 2022. Donc le plan n'est pas non plus complètement négatif pour l'Ukraine.
Guillaume Lagan, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de défense, auteur de Géopolitique de l'Europe, crépuscule d'un continent. Il répondait sur France Info à Catherine Potier.
6h17 sur France Info, il fait moins 6 degrés à Nancy.
Direction maintenant le Brésil, que retenir de la COP30, le sommet des Nations Unies qui s'est terminé hier à Belém. À la grande déception des Européens, rien sur la sortie des énergies fossiles, pourtant principale cause du réchauffement climatique. Mais près de 200 pays ont signé quand même un accord. Ils réaffirment leur soutien à l'accord de Paris, les pays en développement obtiennent le triplement de l'aide à l'adaptation à l'horizon 2030, c'est-à-dire des financements pour faire face aux dégâts causés par le dérèglement climatique. La déclaration finale appelle aussi à accélérer les efforts pour combler le retard et elle défend la coopération internationale. À Belém, l'envoyé spécial de France Info, Sandy Dauphin.
Cette COP au cœur de l'Amazonie n'aura pas été un long fleuve tranquille, mais malgré l'absence des États-Unis, malgré les désaccords, le multilatéralisme a tenu bon, se félicite le président de la COP30, André Correa do Lago.
La circonstance géopolitique est tellement difficile que nous sommes vraiment heureux d'avoir uni tout le monde, 195 pays, et de montrer que le monde prend au sérieux le combat du réchauffement climatique et surtout, le monde veut continuer à travailler ensemble.
Reste que pour l'Europe, la déclaration finale manque d'ambition. Jean-Luc Cruc est le ministre fédéral belge du climat.
On n'a réellement pas obtenu le niveau des ambitions qui était celle de l'Europe. Et je crois qu'il faut être correct à cet égard. On retrouve, à mon sens, pas suffisamment de références à la sortie du fossile. On ne parle pas de déforestation insuffisante alors qu'on est en Amazonie et qu'il devrait savoir ce que c'est.
Toute autre tonalité, l'Inde juge l'accord significatif. Quant à la Chine, son chef de délégation se dit heureux du résultat de cette COP. Pékin s'inquiète des taxes carbone aux frontières, notamment celles de l'Europe. L'accord prévoit justement d'instituer un dialogue sur le commerce mondial. C'est une première dans les négociations climatiques.
Sandy Dauphin à Belém pour France Info. Dans les prochaines minutes, l'œil de Julie Vialon qui suit pour France Info l'actualité des réseaux sociaux. D'abord, l'essentiel de l'actualité.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
France Info, 6h-7h.
L'info en une minute à 6h20, c'est avec Diane Ferchit. Bonjour Diane.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Attention au verglas dans le massif central. 6 départements du centre de la France sont toujours en vigilance orange, neige et verglas ce matin, de la Haute-Vienne à l'Aveyron, ainsi que le département de Seine-et-Marne, l'Île-de-France, où la neige est tombée cette nuit à 4 cm en moyenne. 20 préconisations pour mieux répondre aux besoins des enfants. La Convention citoyenne sur les rythmes scolaires rend sa copie ce dimanche. Parmi ses propositions, 5 jours d'école plein par semaine dès l'élémentaire. Autant de vacances scolaires qu'aujourd'hui, mais avec seulement 2 zones, ou encore des journées d'école qui ne commenceraient qu'à 9h. Donald Trump se dit ouvert à la négociation alors que des pourparlers entre Américains, Ukrainiens et Européens s'ouvrent en Suisse aujourd'hui pour discuter du plan de paix en Ukraine présenté par Washington. Un document en 28 points qui fait craindre à Kiev une capitulation forcée sans éléments de dissuasion, estime Emmanuel Macron. Les Russes reviendront. Fin de la tournée d'automne du 15 de France de rugby avec ce succès au Stade de France sur l'Australie. Score final 48 à 33. 12 essais inscrits, dont 7 par les seuls tricolores des Bleus qui seront bien tête de série lors du tirage au sort de la Coupe du Monde dans 10 jours.
France Info. C'est la toute première fois qu'elle s'exprime depuis l'affaire SCH. Présente au rassemblement en hommage à Mehdi Kessassi hier à Marseille, la mère de Tahar Taïbi, Zoubida Taïbi, son fils unique, a perdu la vie le 26 août 2024 à la Grande Motte dans l'Hérault, tué par balle. Il était dans une voiture. Les tireurs visaient en fait le rappeur SCH, menacé de mort par le grand banditisme marseillais. Extérieur à cette affaire, la victime, Tahar Taïbi, était son commercial, devenu victime collatérale. Sa mère est venue hier apporter son soutien à la famille et aux proches de Mehdi Kessassi, assassiné le 13 novembre à Marseille. Zoubida Taïbi.
C'est de mon devoir et de venir soutenir aussi les gens, parce qu'ils ont tué mon fils l'année dernière. Moi, c'est la première fois que je parle de l'affaire de mon fils. J'essaye de penser mes plaies et rester tranquille dans mon coin. Je crois que je ne suis pas la seule depuis cette histoire. Voilà, c'était fils unique. Et ils n'ont pas tué que mon fils, ils m'ont même tué avec. Moi, mon fils, il a été tué en 2024. Le 26 août, exactement à la Grande Motte, puisque SCH, il avait donné un concert là-bas. C'était un ami à SCH. Ils l'ont confondu, ils l'ont tué. Criblé de balles, et puis c'est terminé. Et je l'ai enterré, et la vie continue.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez que ça arrive à nouveau dans un endroit où c'est jamais arrivé ?
C'est un truc, je sais pas moi, c'est un truc... C'est trop grand pour nous, c'est énorme pour nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est un truc politique, ça. Un jeune comme Ami ne pourra pas porter ce fardeau tout seul, c'est impossible. Nous, on est là, c'est vrai. Moi, j'ai été touchée dans ma chair. Et il y en a beaucoup aussi d'autres personnes ici à Marseille. Voilà, c'est tout. Et mon fils n'était absolument pas du tout ni dans le narco, ni dans la drogue, ni du tout, du tout, du tout. Il a fait des études, il était bien, il travaillait. C'est d'arriver comme ça, et puis c'est tout. Voilà.
Un innocent comme...
Un innocent, complètement innocent, oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ça, c'est les politiques. Hein. Il y en a plein ici. Ben, eux, ils doivent prendre une décision de ce qu'il faut faire. Comment il faut nettoyer cette... Ils ont laissé gangréner la situation. Hein, la DZ. DZ, moi, je suis algérienne d'origine. Franchement, c'est une honte, voilà, de prendre un Lego comme ça, DZ. Voilà. Et s'en servir. Si c'était pour la bonne cause, ça va. Mais pour faire un truc de mafieux et de tueurs... À l'époque, c'était l'Italie, c'était les trucs, bien loin. Mais là, voilà.
Vous pensez que les politiques peuvent faire quelque chose et que
ben ça... Oui, je pense, oui, avec la justice et tout ça. Moi, j'ai confiance en la justice française. Oui, ils peuvent faire des trucs, ils peuvent nettoyer déjà, aller canaliser, les mettre un peu dans les trucs de sécurité et tout ça. Et puis voilà, quoi. Et puis s'occuper un peu des jeunes gens qui sont un peu dans la dérive, là. Ce qu'il a raconté Amine, moi, je suis pour, voilà. Qu'ils essayent d'aider un peu les petits jeunes, là, leur donner... Pas que Marseille. Marseille, je crois que c'est une réputation de vieil truc. C'est la ville de French Connection, machin, tout ça, mafia. Il s'est resté bien ancré. Et peut-être que certains, ils en profitent parce que justement, l'appellation de Marseille. Et c'est vrai, quand on voyage à l'étranger, les gens, ils nous regardent. Ah, vous êtes de Marseille. Ça fait un peu peur. Ça fait pas bien. Ça fait malsain. Voilà. Alors que c'est une belle ville. Et ça touche maintenant ça, toute la France. Et bon, c'est international, de toute façon.
Et il y avait 6000 personnes hier à Marseille pour cette marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi.
6h24 sur France Info, il fait 0 degré à Lille.
À 6h24, donc, l'œil de Julie, l'actualité des réseaux sociaux. Julie Vialon avec Benjamin Fontaine.
Voyons maintenant de quoi on parle sur les réseaux sociaux avec vous, Julie Vialon. Bonjour Julie.
Bonjour.
Des commentaires cette semaine sur la durée du futur Avatar. Le troisième épisode sort le 17 décembre, dans moins d'un mois maintenant. Et on sait maintenant qu'il va durer 3h15, alors que c'est exactement la même histoire que les autres. Non, ça c'est moi qui l'ajoute. Ce qu'on dit sur les réseaux, c'est que c'est beaucoup trop long et c'est un peu le sentiment général au cinéma aujourd'hui.
The Batman, 2h56. Babylon, 3h09. Boys Afraid, 2h59. Une bataille après l'autre, 2h42.
Ça fait beaucoup là, non ?
Et la liste est encore longue. Ces films sont sortis ces dernières années. Il faut avoir la vessie bien accrochée pour tenir toute la séance sans faire une pause pipi. Et certains internautes s'en plaignent sur TikTok.
Mais c'est quoi ce bordel ? 3h15. 3h15 pour Avatar 3. Ça vient de tomber. C'est Monsieur James Cameron qui l'a annoncé. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter en 3h15 ?
Nous sommes nombreux à avoir l'impression que les films sont de plus en plus longs, mais c'est peut-être bien une hallucination collective. En fait, la durée des longs-métrages n'a pas vraiment bougé depuis les années 1920, 1h50 en moyenne d'après le journal Le Monde. Les films longs, voire très longs, existent depuis des dizaines d'années. Laurence d'Arabie, Autant on emporte le vent, Ben-Hur, Titanic, tous durent plus de 3 heures.
Pourquoi on a l'impression que c'est si long alors ?
Déjà, les blockbusters se sont répandus. Ils sont devenus un genre à part entière au cinéma. Les Marvel, la saga Harry Potter, des films souvent très longs qui marchent très bien. Et d'après Mélanie Toubeau de la chaîne YouTube La Manie du Cinéma, ils sont plus projetés et restent plus longtemps en salle que les autres. Donc forcément, ça nous donne l'impression de voir plus souvent des films longs.
Mais j'imagine aussi que le streaming joue un grand rôle dans cette hallucination collective.
Et oui, avec un abonnement mensuel, aujourd'hui on a accès à un nombre de films incalculable. Quand on regarde un film à la maison, on peut facilement mettre pause pour aller chercher des pop-corns ou jeter un œil à nos téléphones. On regarde des vidéos sur les réseaux, parfois même en accéléré. Alors regarder un film pendant 3 heures sans rien faire en même temps, c'est compliqué. On n'a plus l'habitude, le temps nous paraît long. Selon Mélanie Toubeau, c'est peut-être même le cinéma qui devrait s'adapter à ses spectateurs en réhabilitant les entr'actes, par exemple, pourquoi pas. En fait, les films ne sont pas plus longs qu'avant, c'est nous qui sommes moins patients.
Il y avait d'ailleurs un entr'acte pour Le Brutaliste en début d'année qui faisait 3h30, je crois. Merci beaucoup Julie. Julie Vialon, l'œil de Julie, tous les week-ends sur France Info, à suivre la météo et toute l'info.
Julie Vialon avec Benjamin Fontaine et à 6h27 avant le journal et la météo. D'abord, la playlist, le rendez-vous musical du dimanche avec les coups de cœur du service culture de France Info. Ce matin, Matteo Maestrachi a choisi le groupe anglais The Stone Roses, marqué cette semaine par la mort d'un de ses principaux membres.
Gary Monfield, plus connu par son surnom de Manny, qui est décédé jeudi à 63 ans. Il était né en novembre 1962 à Crumsall, dans la banlieue nord de Manchester, dans une famille d'origine irlandaise. Et c'est après avoir quitté l'école à la fin des années 70 qu'il avait rejoint le groupe The Stone Roses en 1987 en remplacement de Pete Garner, bassiste original du groupe. Deux ans plus tard, en 1989, sort le désormais culte premier album éponyme des Stone Roses, porté par la chanson « I Wanna Be Adored ». Stone Roses, qui personnalise alors totalement le mouvement appelé Madchester, jeu de mots avec Manchester, sorte de mélange entre dance, pop et rock psychédélique, en compagnie notamment des Happy Mondays. Et sur ce disque, considéré maintenant comme un des plus influents de l'histoire du rock, la basse de Manny est un point cardinal important de l'ensemble, comme sur cet autre extrait, She Bangs the Drums. Gary Monfield participe aux deux albums studio des Stone Roses. Le deuxième, Second Coming, sort en 1994, deux ans avant la séparation du groupe. Disque plus rock, on y retrouve entre autres ce titre « Love Spreads ». Après l'aventure Stone Roses, Manny avait rejoint le groupe écossais Primal Scream jusqu'en 2011, année où il était revenu en arrière en reformant le groupe mancunien qui a repris le chemin de la scène, avec même quelques morceaux inédits, jusqu'en 2017. Gary Moonfield était aussi un grand fan de Fléchettes et du club de foot local de Manchester United.
La playlist de France Info, le coup de cœur du service culture avec Matteo Maestracci.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Et la météo avec Patricia Charbonnier. Patricia, après le verglas et la neige de la nuit, la pluie.
Oui, et l'épisode neigeux touche à sa fin. Alors attention, ce matin, on a encore un risque de pluie verglaçante au nord de la Seine, très localement en Île-de-France, sur la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre Val-de-Loire et le Massif central. Mais la pluie est déjà là sur l'ouest du pays avec un très net redoux et les pluies vont gagner du terrain cet après-midi. Cette zone de pluie s'étendra des frontières du nord au centre Val-de-Loire jusqu'au Massif central et le long de la façade atlantique. Des pluies parfois un petit peu plus marquées dans la partie sud-ouest avec de bonnes rafales de vent sur l'arc atlantique. Ça restera gris sur les régions de l'est avec des températures encore très contrastées. Le froid résiste encore un petit peu dans le nord-est avec 3 degrés cet après-midi à Mulhouse, mais le redoux s'amorce bien dans l'ouest avec 17 à Biarritz cet après-midi, 11 à Marseille et 9 à Paris.
Vous écoutez France Info, il est 6h30.
France Info. Jean-Christophe Martin.
Et donc prudence sur les routes, comme Patricia Charbonnier vient de vous le rappeler, avec la neige et le verglas de la nuit. C'est peut-être une partie de l'avenir de l'Ukraine qui se joue ce dimanche matin en Suisse, à Genève. Les émissaires américains, britanniques, français, allemands et ukrainiens doivent se rencontrer pour parler du plan de paix américain jugé trop favorable pour Moscou, l'Ukraine qui va proposer d'autres alternatives à son allié américain. À Odessa, pour France Info, Théo Renaudon.
Impossible de savoir réellement avec quelle carte la délégation ukrainienne arrive en Suisse ce dimanche. Délégation d'ailleurs essentiellement militaire. Ce qui semble évident, c'est que l'Ukraine ne viendra pas avec un non trop vif face au plan américain, par peur de froisser. Écoutez Volodymyr Zelensky, c'était vendredi soir.
Je présenterai des arguments, je convaincrai et je proposerai des solutions. Mais nous ne donnerons certainement pas de raison à l'ennemi de dire que l'Ukraine ne veut pas la paix, qu'elle est celle qui perturbe le processus ou qu'elle n'est pas prête pour la diplomatie.
Le président ukrainien qui compte également sur ses alliés européens autour de la table, jusqu'ici devancés par la proposition américaine et qui devraient eux aussi venir avec leur propre solution pour l'Ukraine. À l'autre bout du continent, Moscou restera à convaincre.
Théo Renaudon de RFI à Odessa pour France Info. La fin de 5 mois de travail collectif, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant se termine aujourd'hui. Les 130 citoyens tirés au sort votent à la mi-journée sur le rapport final qui sera ensuite remis au chef de l'État et au Premier ministre. La France Insoumise donne ce dimanche le coup d'envoi de sa campagne pour les municipales de l'an prochain. Les Insoumis qui organisent à Aubervilliers leur convention municipale 2026. La France Insoumise n'a qu'une dizaine de mairies actuellement, surtout des petites villes ou des villes moyennes. Mais pour la première fois, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon se lance à fond dans ses municipales, Elia Bergel.
Oui, les Insoumis changent de braquet. Résumé de Paul Vanier, le monsieur élection de LFI.
En 2020, nous étions en soutien à des listes citoyennes dans un peu moins d'une centaine de communes. Et en 2026, nous serons présents dans plus de 500 communes.
Comme à Lyon, derrière la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, qui promet un programme de rupture pour la ville.
La réquisition des logements vacants, il y a un enfant sur cinq qui va à l'école le ventre vide. Nous proposons des petits déjeuners gratuits, une cantine gratuite.
À Lyon, comme à Paris ou Marseille, les Insoumis envoient des candidats contre des maires sortants, écologistes ou socialistes. La division, ce n'est pas nous, se défend pourtant Manuel Bompard, coordinateur national LFI.
J'observe pour l'instant que le Parti Socialiste, en l'occurrence, a dit dans ses différentes communes qu'il ne pouvait être question de faire alliance avec la France Insoumise, ni au premier, ni au second tour.
Ça sera très dur de remporter des villes, reconnaît toutefois un député insoumis. Selon un cadre du parti, LFI ne dirige qu'une dizaine de mairies pour le moment, des communes de taille moyenne ou de petite taille. Mais cette irruption des Insoumis au municipal fait enrager au PS. Un maire qui se représente l'an prochain accuse LFI de vouloir, je cite, « plumer la volaille socialiste ».
Elia Bergel du service politique de France Info. Plus de 80 députés de tous bords réclament l'interdiction du géant chinois du commerce en ligne Shein sur le territoire français. Un texte publié dans la Tribune dimanche, interdiction demandée pour protéger les travailleurs, la santé publique et la planète après l'installation de la marque chinoise Shein au BHV à Paris. Vous écoutez France Info, il est 6h34 et c'est l'heure du sport.
France Info Sport avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri-CNAPS.
Et d'abord, le rugby. Le 15 de France termine sa tournée d'automne avec une victoire en battant l'Australie 48 à 33. Match prolifique au Stade de France, pas moins de 12 essais, dont 7 marqués par les tricolores qui finissent l'année sur une bonne note. Et pour le 15 de France, après les deux derniers matchs qui avaient déçu, en résumé, des Bleus soulagés. Le Stade de France aussi, même si tout le monde attend encore mieux. Soirée de rugby vécue au Stade de France pour France Info par Fanny Lechevestrier.
Soulagement, il s'est entendu à coups de grosses sonos dès la fin de la rencontre, avec 80 000 spectateurs qui, malgré le froid et la neige, n'avaient pas envie de quitter leur équipe de France.
On est content que la France ait gagné.
C'est trop bien.
C'est magnifique.
Je viens jouer contre l'Australie.
T'as un joueur favori ?
Oui, c'est Louis Bel-Biarrey.
Et oui, Louis Bel-Biarrey, nouveau chouchou des supporters, du haut de ses 22 ans et de ses désormais 20 essais en bleu, auteur d'un magnifique doublé hier soir.
C'est le match où on a pris le plus de plaisir. Ça fait du bien quand pas tout se passe bien, mais quand on gagne et qu'on prend du plaisir comme ça, on espère que c'est de bonne augure pour la suite.
Avec, dans les points positifs de ce match, une jeunesse qui a montré du talent, Speedy LBB donc, mais aussi Nicolas Deporter ou encore Calvin Gourgue, 20 ans, première sélection et à l'origine d'un des 7 essais tricolores sur son petit nuage hier soir.
Franchement, je suis trop plein d'émotions. Jouer devant 80 000 personnes, je ne l'ai jamais fait et c'est vraiment impressionnant et surtout chanter la Marseillaise devant 80 000 personnes, ça met les frissons.
Des frissons, on en a eu aussi, mais plutôt malheureusement de frayeur en regardant la défense du 15 de France. Une défense en souffrance qui n'a durant cette tournée d'automne jamais encaissé autant de points sous l'air Galtier. De l'aveu même du sélectionneur, les Bleus de 2025 sont d'ailleurs moins forts que par le passé.
On est moins en place, on est moins fort qu'il y a 4 ans. 4 ans, c'était une série de 14 victoires consécutives. On n'est pas au même niveau, mais je le dis avec sérénité.
Car malgré cela, écoutez Gaël Ficou, le joueur le plus capé de l'équipe, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
On a une équipe de France qui performe depuis 6 ans, 7 ans. Et du coup, on attend toujours plus et c'est normal. Il faut encore élever notre niveau de jeu, on en est conscient. C'est un match quand même où on met 50 points. S'il y a quelques années, on aurait dit qu'on mettait 50 points à l'Australie, on aurait signé direct. Donc, il faut savoir pas se contenter, mais être content de ce qu'on a fait.
Après tout, le contrat est rempli avec cette tournée. Les Bleus conservent leur rang parmi les 6 premières nations mondiales et seront bien tête de série lors du tirage au sort de la Coupe du Monde le 3 décembre prochain. Il leur restera ensuite 17 matchs pour s'améliorer, à commencer par le tournoi Destination dès février.
Fanny Lechevestrier au Stade de France pour France Info. Prochain rendez-vous pour les Bleus, le tournoi Destination le jeudi 5 février avec France-Irlande. Et le football, c'est une légende du foot français qui a retrouvé la compétition hier soir, le champion du monde 2018, Paul Pogba. Après une suspension pour dopage, après la résiliation de son contrat à la Juve et des blessures à répétition, il n'avait pas rejoué depuis plus de 2 ans en compétition. Hier soir, il est entré en fin de match avec Monaco sur la pelouse de Rennes. Et malgré une large défaite de son équipe, 4 buts à 1, la pioche, comme le surnomme ses partenaires, a vécu à 32 ans ce moment qu'il a tellement attendu. À Rennes, pour France Info, Jean-Pierre Blimaud.
Il est 20h18, Paul Pogba part s'échauffer. À 20h40, il entre sur la pelouse.
Paul Pogba !
Le Roizen Park l'acclame comme rarement un joueur adverse ne l'a été. Preuve de l'immense popularité du champion du monde qui n'avait encore jamais joué en Ligue 1 française. À ce moment, Paul Pogba est pleinement conscient de l'importance de ce retour sur les terrains.
Ça m'a vraiment touché de voir ce public vraiment se lever, applaudir. J'imaginais pas en fait. Je voulais essayer d'apporter une bonne énergie et prendre du plaisir bien sûr parce que je suis soulagé d'avoir repris le football, ce que j'aime le plus au monde.
Dans les tribunes, même les supporters de Rennes sont émus, comme Alban, 25 ans. Il en avait 18 quand Pogba l'a fait rêver à la Coupe du Monde en Russie.
C'est quand même un joueur qui a ramené la Coupe du Monde pour la France, donc c'est plutôt sympa. À part avoir applaudi, on est content de le revoir.
Vous pensez qu'il peut revenir en équipe de France ?
Si je rejoue rapidement tout un match entier, oui, ça peut le faire, mais il faut qu'il redonne de la consistance pour être pris.
Mais pour Paul Pogba, l'équipe de France et la Coupe du Monde 2026 sont encore très loin.
Si je suis pas en forme et je joue mal et je performe pas bien à Monaco, l'équipe de France, il faut oublier. Donc franchement, aujourd'hui, je pense qu'à Monaco.
En tout cas, l'entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, avait prévu de le faire entrer quel que soit le déroulement du match.
C'était prévu parce qu'il s'est bien entraîné et que peu importe les circonstances, il est bien rentré. On était à 10 contre 11, c'était pas facile. Mais il a bien fait, donc on va retenir ça.
Dans les coulisses, Paul Pogba prend le temps devant les micros et parle posément, comme si les épreuves l'avaient rendu plus fort.
malgré tout ce qui s'est passé, toutes les histoires en dehors du football, c'est moi qui ai souffert le plus. T'as des moments où le diable, il essaye de parler dans ta tête pour dire c'est fini. Mais il y a un bon Dieu, moi je crois en moi, je crois aussi en mes qualités. Et comme je sais que j'avais rien fait, c'est pas de ma faute. Donc il y avait toujours espoir et j'ai toujours gardé espoir. Quoi.
Avec le temps additionnel, Paul Pogba a joué une dizaine de minutes pour son retour. Elles compteront énormément dans sa reconstruction.
Jean-Pierre Blimaud à Rennes pour France Info et un résultat en Formule 1. Le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull vient de remporter le Grand Prix de Las Vegas, 22e manche sur 24 de la saison de Formule 1 devant le Britannique Lando Norris sur McLaren qui lui s'est rapproché du titre mondial.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
Il est 7h-20, la COP 30 s'est terminée au Brésil hier avec un accord à minima et rien sur le sujet sensible et capital pour la lutte contre le réchauffement climatique. Rien sur la sortie des énergies fossiles. Une grosse déception pour Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace France.
On est clairement très déçus parce qu'on a démarré cette COP il y a 2 semaines maintenant avec l'espoir qu'il y ait à la fin un plan d'action pour lutter contre la déforestation et une feuille de route pour sortir des énergies fossiles. C'est ça qu'on doit faire pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et ce soir, on n'a ni l'une ni l'autre. Donc oui, bien sûr, c'est extrêmement décevant.
Alors la présidence brésilienne de la COP promet quand même une prochaine feuille de route sur ces énergies fossiles. Mais c'est vrai que ce n'est pas... aujourd'hui, c'est encore plus tard, on retarde, toujours on retarde.
On ne cesse de retarder, et puis surtout on avait besoin que cette feuille de route elle soit inscrite dans l'accord final, qu'il y ait un engagement des quasiment 200 délégations officielles qui ont participé à cette COP, de mettre en place quelque chose de très concret pour sortir des énergies fossiles. Encore une fois, c'est de ça dont on a besoin, c'est-à-dire que tant qu'on ne construit pas des sociétés qui arrêtent de consommer autant de pétrole, de gaz et de charbon, on ne parviendra pas à freiner le changement climatique.
Vous pensez que les Européens se sont retrouvés isolés sur cette question?
Les Européens ont tenté à un moment donné d'amener plus d'ambition dans ces textes-là, mais moi je trouve qu'ils ont lâché la rampe trop vite. On le voit en ce moment même, la COP n'est pas tout à fait terminée, il y a encore des discussions entre certains États, et on voit bien là que dans les dernières heures, dans les dernières minutes, c'est plutôt d'autres pays d'Amérique latine, notamment la Colombie, mais aussi l'Argentine, l'Uruguay et d'autres, qui sont en train d'essayer jusqu'au bout de remettre un peu d'ambition dans le texte final. On trouve que les Européens pourraient aider là encore en ce moment même, et on a le sentiment qu'ils ont lâché un peu trop rapidement, qu'ils ont tenté, mais un peu trop mollement, et c'est malheureusement dommage parce que ça n'a pas suffisamment eu d'effet.
Alors quand même, l'accord qui a été négocié à Belém appelle à tripler les financements pour l'adaptation climatique des pays en développement sur les 10 prochaines années. Ça, c'est plutôt positif.
Et c'est positif, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que demandaient les pays les plus vulnérables face aux catastrophes climatiques et au changement climatique. Et puis surtout, on reste extrêmement circonspect et prudent par rapport à ces engagements. C'est pas la première fois que lors d'une COP il y a des engagements financiers, mais il n'y a pas de mesures contraignantes. On ne sait pas réellement à quelle échéance qui va devoir payer quoi. On ne sait pas quelle forme vont prendre ces financements. Est-ce que ce sera de l'argent public, de l'argent privé, sûrement un mix des deux. Et puis vous savez, il y a eu beaucoup de débats et beaucoup de discussions sur est-ce que ces financements sont des dons vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui en ont besoin. Est-ce que ce sont des prêts qui contribuent à augmenter encore l'endettement des pays les plus pauvres. Donc, bien sûr qu'on est toujours heureux d'entendre que les financements vont être multipliés par 3, mais il faut attendre que ces engagements soient réellement concrets et puissent réellement aider, encore une fois, les pays qui en ont besoin aujourd'hui pour faire face aux catastrophes climatiques qui sont déjà là.
Le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard, il répondait sur France Info à Catherine Potier. Dans un instant, le choix de France Info. Ce matin, gros plan sur les solutions pour mieux protéger les espèces animales et végétales menacées par le commerce international avec un cas très particulier. D'abord, l'info en une minute.
France Info, 6h-7h.
L'essentiel de l'actualité à 6h43, c'est avec Diane Ferchit et le premier titre de ce dimanche. Diane, l'heure de rendre la copie pour la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant.
20 points au total pour mieux adapter le rythme scolaire aux besoins des élèves, avec par exemple un début des cours repoussé à 9h pour les collégiens et les lycéens. Une semaine de 5 jours pleins dès le primaire pour alléger les journées. La convention citoyenne qui recommande aussi de ne pas toucher à la durée des vacances, mais plutôt de supprimer une des trois zones. Plus on sera nombreux, moins ce sera possible de nous faire taire. Les mots d'Amine Kessassi, militant contre le narco-banditisme hier à Marseille, lors de la marche blanche organisée en hommage à son frère assassiné. Plus de 6000 personnes étaient présentes. Les négociateurs ukrainiens, américains et européens se réunissent en Suisse ce dimanche au sujet du plan de paix en Ukraine présenté par les États-Unis. C'est une base de travail qui doit se reprendre, estime Emmanuel Macron. Toute initiative qui va vers la paix est bonne, souligne le chef de l'État. Au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro reconnaît avoir utilisé un fer à souder pour tenter d'ouvrir son bracelet électronique. Dans une vidéo rendue publique par la Cour suprême, il affirme l'avoir fait par curiosité. Jair Bolsonaro est désormais en détention provisoire. En septembre dernier, il a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État.
France Info.
Comment mieux protéger les espèces animales et végétales menacées par le commerce international? C'est le choix de France Info ce matin et c'est tout l'enjeu de la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction, et qui commence demain à Samarcande en Ouzbékistan. Dans ce contexte, le Brésil veut interdire la commercialisation du pernambouc, une espèce d'arbre endémique du nord du pays, un arbre emblématique avec un problème très particulier, c'est que c'est le bois utilisé pour fabriquer des archets de musiciens professionnels pour les violon alto, etc. C'est d'ailleurs sa seule utilisation actuelle. Bonjour Augustin Ourlier.
Bonjour.
Alors entre les musiciens et les artisans archetiers, c'est tout un secteur qui est menacé par cette mesure.
Dans cette interprétation du poème « Amitié » composé par Eugène Isaïe, Émilie Belot, violoniste à l'Opéra de Paris, utilise un archet en bois de Pernambouc, comme tous les musiciens professionnels de violon, alto, violoncelle et contrebasse.
Le musicien va très tôt chercher à faire l'acquisition d'un archet en Pernambouc. Ça va parfois lui prendre des mois, voire des années, pour trouver l'archet qui correspondra à sa technique, à sa personnalité musicale. Moi, je joue un archet que j'ai depuis mes 15 ans, que je continuerai à jouer aussi longtemps que je le pourrai, parce que j'ai pas trouvé l'équivalent aujourd'hui en termes de qualité.
Si le pernambouc est interdit au commerce, chaque passage de frontière avec un archet nécessitera d'avoir une autorisation donnée par la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction, avec des délais qui peuvent dépasser les 6 mois.
Certains aéroports ne sont pas du tout habilités à traiter ces questions administratives, donc on pourrait se retrouver avec des archets consignés, confisqués. Je pense que ça signerait tout simplement l'arrêt des tournées.
Certaines directions d'orchestre commencent déjà à suggérer aux musiciens de passer aux archets en carbone fabriqués en Chine. Une hérésie pour Émilie Belot et une grosse perte potentielle pour les artisans archetiers. Arthur Dubroca tient un atelier à Paris depuis plus de 20 ans. Avec la nouvelle protection du pernambouc, il aurait besoin d'un agrément pour la moindre réparation, fabrication, achat ou vente.
On comprend vite que c'est une entrave au commerce. On ne va pas passer l'année sur des démarches administratives pour un travail qui pourrait prendre quelques heures sur l'établi.
Arthur Dubroca a peur de perdre des clients, notamment les artistes étrangers qui réparent leur archet entre deux concerts à Paris.
Nous, on estime à environ 30% de notre activité avec des clients étrangers. Ce qui veut dire que si jamais on perd cette clientèle, nous on est obligé de fermer l'atelier.
L'artisan dénonce une mesure de protection disproportionnée. Selon ses estimations, la fabrication d'archets pour toute l'Europe nécessite l'abattage d'une quinzaine d'arbres par an.
Et à l'inverse, pour Maude Lelièvre, la présidente de l'UICN France, l'Union internationale pour la conservation de la nature, interdire la commercialisation de ce bois, le pernambouc, n'a rien de disproportionné vu la menace qui pèse sur l'espèce.
Le pernambouc, c'est plus de 80% de l'espèce qui a disparu en trois générations, de façon extrêmement rapide. Donc moi, je peux comprendre le point de vue des acteurs économiques qui craignent pour leur secteur économique. Le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir des règles strictes. Sur cette espèce comme sur d'autres, c'est un ensemble de mesures qui est nécessaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut protéger cette espèce, il faut une application rigoureuse et des incitations à utiliser du bois cultivé et pas des espèces sauvages.
Et si on regarde cette CITES dans son ensemble, quels sont les gros enjeux de cette édition 2025 ?
Alors, on va avoir des débats espèce par espèce. Il y en a peut-être une qui va être intéressante à suivre, qui nous concerne peut-être plus sur le plan français. C'est par exemple le surclassement du requin océanique. On sait que ce sont des espèces qui sont très menacées d'extinction, 70% de l'espèce, avec un déclin qui est notamment dû au commerce illégal des nageoires. S'il n'y a pas des mesures qui sont prises par le commerce, on ne pourra pas avancer sur la protection des requins, les requins et les raies. Ils souffrent, comme d'autres espèces, de ne pas avoir une image très sympathique, mais c'est une espèce absolument essentielle, donc à suivre.
Vous représentez une organisation de protection de la nature. Est-ce que cette CITES 2025 vous donne de l'espoir ?
La CITES, c'est toujours utile, c'est une COP technique, donc c'est pas toujours facile d'arriver à suivre, mais on aborde cette CITES de façon extrêmement positive, notamment sur un point qui concerne la France, qui est la neutralisation des marchés de produits issus du braconnage, comme l'ivoire, les écailles, qui restent toujours des forts marchés de braconnage. Il y a un appel à la fermeture totale des marchés nationaux illégaux. On est concerné en France, on est concerné en Europe, donc on aborde de façon positive cette CITES.
Maude Lelièvre, présidente de l'UICN France, l'Union internationale de la conservation de la nature, et le choix de France Info, signé ce matin Augustin Ourlier, à retrouver sur franceinfo.fr. Dans les prochaines minutes, le billet science au week-end sur France Info, les découvertes de Bill François. D'abord, ces destins qui font l'info. Ces destins qui font l'info, la suite de la série consacrée à Giorgia Meloni. Elle applique depuis 3 ans une politique ultra-conservatrice à la tête de l'Italie avec sa fougue et ses accents populistes. Mais quelle est vraiment la patte, la formule Meloni ? Appelez-moi simplement Giorgia. C'est le 4e épisode de la série signé Agathe Mahué et Théo Gomard.
C'est une séquence purement Meloni. En mai 2024, la première ministre se rend près de Naples et rencontre le président démocrate de cette région, Campanie, qui l'avait insulté, traité de stronza, quelques mois plus tôt lors d'une conversation privée, mais divulguée. Voilà donc Giorgia Meloni qui s'approche de lui, Vincenzo De Luca.
Presidente De Luca.
Et droit dans les yeux.
La strozza della Meloni. Come sta?
C'est moi, cette connasse de Meloni. Comment allez-vous? Tout en lui serrant la main.
Bienvenue. Bene,
grazie.
De Luca ne réagit pas et lui souhaite simplement la bienvenue dans la région. Un point pour la présidente du Conseil italien qui revendique ce franc-parler, cette langue jamais dans la poche et cet accent romain. Parfois même ce dialecte de Rome dont elle use parce qu'il la rend authentique et sincère auprès de son électorat. Été 2022, juste avant d'arriver au pouvoir, elle perd un peu sa voix en meeting. Boit une gorgée d'eau et s'excuse. Je vous jure que j'essaie d'être plus calme. Mais bon, les gars, je suis de la Garbatella aussi. Que voulez-vous ? Faut que ça sorte. C'est ça, la Garbatella, ce quartier très populaire que dévale sur sa Vespa Nanni Moretti dans son film Journal intime, sur une musique de Leonard Cohen.
Il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella.
Bon, Moretti et Meloni, c'est vrai, ne sont pas du même bord. Et ce quartier périphérique de Rome est surtout un bastion de la gauche où emménage Giorgia, toute petite, après le départ de son père et l'incendie qu'elle provoque en laissant brûler une bougie dans l'appartement cossu du centre-ville qu'il faut quitter. Cette jeunesse à la Garbatella lui permet de se revendiquer banlieusarde, des origines qu'elle ne manque jamais de rappeler.
Je suis et je serai toujours fière d'être une personne du peuple. Je serai toujours simplement l'une des vôtres.
Elle incite d'ailleurs ses électeurs à l'appeler simplement par son prénom. Giorgia Meloni n'a que le bac, son seul diplôme. Elle raconte volontiers qu'elle connaît les petits boulots. Serveuse au Piper Club de Rome, célèbre scène de rock dans les années 70, devenue discothèque quand Meloni avait 20 ans. La présidente du Conseil italien, désormais à 48 ans, un débit mitraillette, tempérament déterminé. Elle l'a dit, il faut l'être pour réussir dans un monde d'hommes. 1m60, Giorgia Meloni n'est pas grande, mais on ne voit qu'elle dans les sommets internationaux.
Ces grimaces, ces froncements de sourcils, notamment, font le tour du monde. L'auteur Emmanuel Carrère, qui couvre le G7 à l'été 2025, dit d'elle qu'elle est la moins poker face de tous. Quand quelque chose l'amuse, elle pouffe de rire. Quand quelque chose l'ennuie, elle lève les yeux au ciel et soupire bruyamment. Et l'écrivain ajoute
« Je sais que Mélanie est considérée comme d'extrême droite et qu'il ne faut pas dire du bien d'elle. Disons seulement que cette petite femme blonde détonnait au G7 par une sorte de rudesse enjouée et un dress code sans concession à la grisaille. Au milieu des tailleurs stricts, sa robe bleu ciel, très légère, avait presque l'air d'une robe de plage. »
Dirait-on cela d'un homme ?
She's a beautiful young woman.
Ça ne vous dérange pas que je parle de vous comme d'une belle jeune femme, n'est-ce pas ? S'assure aussi Trump.
You don't mind being called beautiful, right ?
Parce que vous l'êtes.
Because you are.
Mélanie, surtout, est habile et fine politiquement. Toujours populaire en Italie après 3 ans à la tête de son gouvernement ultra-conservateur, presque un record de stabilité.
Il nostro governo entra nella lista dei primi 5 governi più duraturi della storia della Repubblica Italiana.
Son objectif, redonner à l'Italie toute sa place sur la carte du monde.
Appelez-moi simplement Giorgia, 4e épisode de la série de ses destins d'info avec Giorgia Meloni, série signée Agathe Mahué et Théo Gomard, à retrouver en intégralité sur l'application de podcast de Radio France.
Le billet science avec le groupe Vive, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous.
Les découvertes de Bill François, qui est avec Benjamin Fontaine.
On part pour une plongée maintenant avec vous, Bill François. Bonjour Bill.
Bonjour.
Plongée dans les profondeurs de l'océan pour découvrir une des plus rares baleines au monde. Si rare que personne ne l'avait encore jamais vue vivante. Elle a été observée ces derniers mois. À quoi ressemble-t-elle au juste ?
Elle appartient à la famille des baleines à bec. Ce sont des sortes de dauphins géants de couleur gris-marron avec des défenses qui dépassent de leur bouche un peu comme celles d'un sanglier. Mmh. Ça paraît très bizarre, vous n'en avez sans doute jamais vu.
Non.
Et pour cause, elles sont très difficiles à repérer. Déjà parce qu'elles n'émettent pas de souffle en surface et en plus parce que ces grands timides se cachent la plupart du temps à plus de 3500 mètres de profondeur où ils peuvent rester en apnée plus de 4 heures, les meilleurs plongeurs de tous les mammifères marins. Il existe 24 espèces de baleines à bec, mais on ne sait presque rien sur aucune d'entre elles.
Et parmi ces 24, donc, il y en a qu'on n'a jamais vu.
Et c'était le cas de la baleine à bec à dents de ginkgo. Nommée ainsi car ses dents rappellent les feuilles du bel arbre ginkgo biloba, qui a le feuillage tout doré en ce moment à l'automne. Cette espèce ne nous était connue jusqu'à présent qu'à travers quelques ossements et cadavres de spécimens échoués. Mais c'était sans compter avec la persévérance d'une équipe de chercheurs de l'Oregon et du Mexique qui a passé 5 ans à la traquer sur toutes les mers du globe sans l'avoir jamais vue, juste en suivant la piste de sons susceptibles d'être ceux qu'elle émettait. Et la semaine dernière, la nouvelle est tombée. Ils l'ont enfin observée de leurs propres yeux au large du Mexique.
Mais comment sait-on que c'est elle si on ne l'a jamais vue ?
Avec une arbalète, les chercheurs ont prélevé un petit morceau de peau et de gras de l'animal et ont donc pu identifier son ADN. Ça a d'ailleurs été très difficile car un albatros a tenté de dévorer l'échantillon. C'était moins
effectivement.
Une. Mais maintenant, on sait donc non seulement à quoi ressemble cette baleine vivante, mais aussi à quoi ressemble son cri, puisqu'il a été enregistré au moment de l'observation. Et en analysant ses sons, on a pu retracer ensuite des parcours de ses congénères à travers le Pacifique. Cette découverte permettra sans doute de mieux protéger ces animaux très menacés par les explosions d'armes sous-marines qui les font s'échouer. Et surtout, elle nous prête à rêver à la part inexplorée de l'océan, dont nous ne connaissons à ce jour que moins de 10% des espèces vivantes. Mmh. La science souhaite donc à cette étrange baleine ginkgo de revenir nous voir un peu plus souvent et de nous présenter d'autres géants inconnus.
Mais oui, on sera ravis de les rencontrer, vous reviendrez nous en parler. Merci Bill, rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau billet science. En attendant, on vous retrouve sur franceinfo.fr.
Bill François avec Benjamin Fontaine.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous êtes perdu, Damien ?
Complètement, Cerise. Ce sont les calculs de ma future retraite et c'est pas simple à comprendre.
Groupama est là. Votre conseiller réalise gratuitement votre bilan retraite pour savoir quand partir, avec combien, et vous propose des solutions d'épargne adaptées à vos besoins.
Ah, ça m'intéresse.
En plus, en ce moment, jusqu'à 200 euros sont offerts pour toute nouvelle souscription d'un contrat retraite.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
La météo à 6h58 avec Patricia Charbonnier. Patricia, après la neige et le verglas cette nuit, c'est la pluie qui s'invite.
Oui, c'est un changement de temps avec la pluie qui arrive par l'arc atlantique et qui annonce un très net redoux sur les régions de l'ouest pour aujourd'hui. Mais attention quand même, on a encore quelques chutes de neige de plus en plus faibles ce matin, mais surtout un risque de pluie verglaçante entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-Val de Loire et le Massif central. Et puis ensuite, c'est la pluie qui va prendre le relais. La pluie qui va s'étendre cet après-midi entre les frontières du Nord, le centre Val de Loire jusqu'au sud-ouest. Elles seront localement soutenues et accompagnées de bonnes rafales de vent. Ça reste sec sur les régions de l'Est, mais c'est très gris aujourd'hui. Et les températures sont très contrastées. On a encore de fortes gelées dans l'Est ce matin, moins 8 degrés à Strasbourg. Même tendance cet après-midi, toujours le froid qui résiste dans l'Est. 3 degrés à Strasbourg et Mulhouse, 6 à Lyon, 7 à Lille, mais on attend 9 degrés cet après-midi à Paris. Et des températures au-dessus des 10 degrés sur l'Ouest, avec 15 à Bordeaux et 17 à Biarritz.
Patricia Charbonnier, il est presque 7h, c'est le 7-10 de France Info, et jusqu'à 10h avec Adrien Beck. Bonjour Adrien.
Bonjour mon cher Jean-Christophe, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche où il faut être prudent dans certaines régions pour mettre le pied dehors. Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
D'ailleurs, que ce soit du côté de l'Auvergne, du côté de l'Île-de-France, on l'a bien compris. On a plus que jamais besoin de vous, Patricia. Vous êtes en forme, j'espère. Je salue aussi Diane Ferchit. Bonjour,
bonjour
Diane.
Bonjour à tous.
On va vous retrouver pour les fines infos. Bonjour Théo Metton-Régimbaud.
Bonjour Adrien.
Quant
bonjour
à vous,
à tous.
C'est pour les journaux. Et d'ailleurs, le premier, c'est tout de suite puisqu'il est quasiment 7h. Bienvenue.
France Info, 7h-10h, Adrien Beck.